Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Rachel Garaval-Carcel.
C'est parti !
Le lien étroit entre genre et rapport de pouvoir est peut-être le plus criant à la tête de l'État. Alors, à l'heure où plusieurs candidates à la présidentielle se bousculent au portillon, on revient sur le parcours de ces femmes et de celles qui les ont précédées. Pourquoi sont-elles si peu à se présenter? Quels sont les obstacles? Comment sont-elles décrites, caractérisées? Et surtout, jusqu'ici, pourquoi ne gagnent-elles pas? Mais d'abord, des nouvelles du féminisme.
Oui, pour la troisième fois dans l'histoire du Parlement européen, il y a désormais une femme à sa tête, la Maltaise Roberta Metsola. Elle est issue du grand parti conservateur européen, le Parti populaire européen, où on retrouve par exemple les Français de LR. Son élection a fait polémique car elle est ouvertement anti-IVG.
En tant qu'étudiante activiste, je devais répondre à une question fondamentale. Voulez-vous que votre pays rejoigne l'Europe ou voulez-vous que l'on reste en dehors? J'ai choisi le camp de ceux qui voulaient entrer dans l'Union européenne.
Ça n'a pas empêché en plus une partie de la gauche et des macronistes de voter pour elle en vertu d'accords politiques. Pas besoin de vous faire un dessin sur le mauvais symbole que ça représente, un symbole aggravé par le fait que la première fois que le Parlement européen a été présidé par une femme, c'était en 1979, et c'était Simone Veil.
Que représente pour vous cette élection, un succès personnel ou une victoire politique ce soir?
Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment, me suis pas beaucoup posé la question. Je ne pense pas à une victoire ni à un succès, je pense plutôt à ce que ça représente comme responsabilité.
Deux sons, deux ambiances. Et alors, autre information, selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, les commissariats auraient enregistré une hausse de 33% des violences sexuelles pour l'année 2021, et en particulier en ce qui concerne les violences intrafamiliales. Voilà, des chiffres qui nous inquiètent. Alors, pour revenir au sujet de la semaine, donc des candidates à l'élection présidentielle,
elles sont 12. Depuis qu'en France, l'élection présidentielle se joue au suffrage universel direct, c'est-à-dire depuis 1965, 12 femmes différentes se sont frottées à cette campagne. Dans le même temps, ce sont 59 hommes différents qui ont fait de même. Cette année, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Christiane Taubira tentent ou retentent leur chance, parfois avec de réelles chances de l'emporter. Ça vaut peut-être la peine qu'on s'y attarde.
Oui, on va d'abord faire un petit rappel historique de pourquoi on en est arrivé là et surtout pourquoi est-ce que ça a pris aussi longtemps. D'abord, il faut rappeler que l'accès des femmes à la citoyenneté s'est gagné de haute lutte. On le sait, la première vague des féminismes qui commence au XIXe siècle va d'abord réclamer des droits civils et civiques, donc politiques, puisque le suffrage universel de l'époque n'est pas du tout universel. C'est donc ce que l'historienne Dominique Godineau appelle des citoyennes sans citoyenneté. Donc les femmes ont été mises à l'écart, mais elles ont également résisté alors qu'on craignait un désordre des sexes ou qu'elles oublient leur devoir de mère, et on les a donc exclues logiquement des partis politiques. Mais en 1848, on a élargi le suffrage et là, une femme qui s'appelle Jeanne de Rouen, qui est une lingère et qui va devenir institutrice et socialiste, va se présenter, seule toute, aux législatives en 1849. Alors évidemment, c'est un geste très symbolique, mais à l'époque, Proudhon va écrire que c'est un fait très grave. Évidemment, elle n'est pas élue et elle est même emprisonnée pendant 6 mois avant de s'exiler en Angleterre.
Mais restons à l'étranger juste un instant. Aux États-Unis, la première candidate date de 1872. Victoria Woodhull est une suffragiste et se présente alors qu'elle n'a évidemment pas le droit de se présenter. Sa candidature ne sera pas prise au sérieux, mais on ne l'oublie pas. En France, la première femme élue municipale l'est en 1925. Elle s'appelle Joséphine Pincalet, ouvrière à Douarnenez en Bretagne, élue suite à une grande grève des sardinières. Elle était candidate sur la liste communiste alors que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles à l'époque. En novembre 1925, le Conseil d'État invalide son élection au motif qu'une femme n'a pas le droit de vote et ne peut donc siéger dans une assemblée qui vote. Le Parti communiste ne réagit pas à cette décision et Joséphine retourne à sa vie d'ouvrière, amère et avec le sentiment d'avoir été utilisée. L'historienne Fanny Bunion en parle.
Joséphine Pincalet, c'est en quelque sorte une pionnière qui ne se voulait certainement pas pionnière, qui était quelqu'un d'assez modeste, hein, qui ne souhaitait pas être mise en avant à titre personnel, mais c'est un symbole. C'est le symbole d'une femme qui s'engage en politique, qui est ouvrière d'un petit port de la Bretagne, qui a connu l'exode rural à Paris, qui est devenue domestique pour pouvoir survivre, qui a connu des difficultés économiques importantes et qui s'est battue toute sa vie pour ce qu'elle appelait la dignité des êtres humains et des femmes.
Voilà, et alors après ça, il y aura aussi des femmes dans le premier gouvernement de Léon Blum, notamment Cécile Brunswick, qui était une bourgeoise réformiste. Mais en tout cas, ce que l'on retient de ce bref historique, c'est que la participation politique ne se traduit pas ou pas totalement dans la hiérarchie des partis ou dans une forme de féminisation des instances politiques. D'ailleurs, au sujet des femmes, l'historienne américaine Joan Scott parle de citoyenne paradoxale. Le résultat, c'est qu'il y a donc une sous-politisation des femmes, c'est-à-dire que la politique est une compétence qu'elles ont moins l'impression d'avoir, et donc cela provoque une forme d'auto-exclusion par reproduction de ce modèle. Donc la division sexuée du travail fait qu'elles s'engagent davantage dans les milieux associatifs ou dans les syndicats, et le dilemme est souvent, pour les femmes en politique, d'être intégrées comme des individus, mais tout en ayant des intérêts propres, c'est-à-dire, encore une fois, de trouver sa place quand on est minoritaire ou qu'on est cantonné à des secteurs féminins, donc moins valorisés de la hiérarchie politique. Et là, on voit que jusqu'à aujourd'hui, il y a un vrai prolongement de cette exclusion historique de la citoyenneté. Pour donner un exemple chiffré, en 1945, il y avait 5,5% de femmes députées, et en 1993, il y en a 6,1%, donc ça a très peu progressé. En tout cas, en 1991, Edith Cresson devient la première femme première ministre à Matignon. On l'écoute.
J'étais extrêmement réticente, d'abord parce qu'on était dans la deuxième partie du deuxième mandat, ce qui est la pire période. Je me souviens que je lui ai répondu « ils vont être furieux », ce qui n'a pas manqué. J'ai été tout de suite extrêmement attaquée, naturellement par les médias, et aussi par les hommes politiques de droite et pas seulement de droite. Les commentaires, c'était « elle porte des boucles d'oreilles, pourquoi ? Elle a un bracelet, comment ça se fait ? Regardez comment elle marche. » Ils se mettaient à genoux devant ma voiture pour filmer mes jambes, vous vous rendez compte ? Et ils avaient même déclaré que j'avais un de mes collants qui était filé. Non, c'est inimaginable l'attitude de ces gens-là.
En fait, le décollage est d'abord municipal, régional, européen, mais pas national. La Ve République perpétue le temps de la politique virile, que la loi de 2001 sur la parité va un peu influer tout de même. Elle va rendre les professionnels de la politique plus nombreuses, plus visibles, et en disséminant aussi l'idée qu'elles font de la politique autrement. Delphine Dulon et Frédéric Matonti expliquent dans l'indépassable féminité la mise en récit des femmes en campagne qu'en utilisant le retournement du stigmate, théorisé par Erving Goffman, les femmes politiques relayées par les médias vont mettre en avant une manière différente de faire de la politique. Le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes en politique, mais toujours une certaine inertie des stéréotypes sur fond de montée des populismes en Europe. Tout cela est aussi lié aux pratiques politiques qui se modifient et font une plus grande place à l'intime.
Et alors un autre obstacle qui se présente selon Geneviève Fraisse, c'est que les femmes qui ont une expertise pour gouverner ne sont bien souvent pas considérées comme aptes à représenter l'intégralité de la nation. Donc les femmes politiques sont bien souvent infériorisées et donc ramenées à leur corps sexué. On observe du coup un maintien de ce qu'on appelle le monopole ou le bastion masculin chez les professionnels de la politique à travers des stéréotypes sur le corps, la vie privée ou la maternité. Les sociologues Catherine Achin et Elsa Dorlin ont écrit un article assez retentissant à l'époque qui s'appelle « Nicolas Sarkozy, la masculinité mascarade du président » dans lequel elles expliquent qu'il y a toujours une dimension genrée des rôles politiques. Et c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. Je les cite. « Le corps légitime en politique a de fait toujours été celui des hommes qui l'ont historiquement incarné et défini. Au contraire, le corps féminin, de par sa fonction traditionnelle de personnification symbolique de la nation, de la patrie, de la République, etc., est toujours apparu comme un signifiant du politique et de ses valeurs, un corps allégorique. Ainsi, la féminité renvoyait toujours à autre chose qu'à elle-même. » Et donc, dans ce texte, elle présente trois modèles de femmes politiques qui dominent en France. Il y a d'un côté la favorite, type Edith Cresson, de l'autre la figure maternelle comme Simone Veil, ou encore la king comme Michèle Alliot-Marie ou Margaret Thatcher, c'est-à-dire des femmes politiques sans enfants ou refusant de mettre leur maternité en avant. Et alors on va passer à notre premier exemple, une pionnière de ces élections.
Oui, la première élection présidentielle au suffrage universel a lieu en 1965, on l'a dit, cette année-là, et en 1969, l'élection suivante, aucune femme n'est sur la liste des candidats. La première arrive en 1974 et c'est Arlette Guillet, qui représente Lutte ouvrière, un parti d'extrême gauche trotskiste. Même si ça remonte, ce nom vous dit peut-être quelque chose, car Arlette Laguiller va être candidate à l'élection présidentielle 6 fois de suite, jusqu'en 2007. Ce symbole d'être la première femme candidate à la présidentielle, Laguiller en a bien conscience, et y va direct dans son clip de campagne de l'époque.
Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Certes, les grands partis se disent tous partisans de l'égalité des hommes et des femmes, et ils n'en finissent pas de voter et de revoter des lois sur cette égalité. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes.
Oui, elle le dit, le féminisme n'avait pas toujours bonne presse, ni à gauche, ni à droite, et l'extrême-gauche ne fait pas exception. Cette lutte-là a été parfois vue comme une distraction de la révolution prolétarienne, hein, ce qui est un grand classique dans les mouvements sociaux à gauche. Et donc Arlette Laguiller se distingue dans ce tableau, puisqu'elle s'est notamment engagée pour la légalisation de l'avortement. Elle a aussi été appelée à la barre par Gisèle Halimi en 1978, lors du fameux procès d'Aix, procès pour le viol d'un couple de lesbiennes belges, qui sera à l'origine de la criminalisation du viol.
En 1974, Arlette Laguiller a tout juste 34 ans, ce qui pourrait paraître impressionnant, mais étonnamment, ce n'est pas un record, puisque 3 autres candidats de cette année-là sont encore plus jeunes. Ce qui détonne en fait encore plus, c'est son parcours. Arlette Laguiller est une employée de banque, une employée de base, elle est dactylo, et son engagement politique commence par la création d'une section syndicale dans les années 60 au siège du Crédit Lyonnais où elle travaille. À sa première tentative présidentielle, la candidate de Lutte ouvrière obtient 2,3%, pareil en 1981, 2% en 1988, mais les choses changent à partir de 1995, sans doute parce qu'Arlette Laguiller est désormais bien connue, bien installée dans le paysage politique français, peut-être aussi parce qu'elle devient un objet de pop culture. En 1993, Alain Souchon écrit une chanson qui lui est consacrée et qui s'appelle tout simplement Arlette Laguiller.
Elle utilise la fraîcheur mentholée, le pépermint pour donner son idée, de partager des baisers, des cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil.
Surtout, Arlette, comme on l'appelle, va devenir un personnage récurrent au Guignol de l'Info sur Canal+. Son gimmick inoubliable, travailleuse, travailleur, on vous exploite, on vous spolie, devient une sorte de tube. Et cette année-là, elle va obtenir 5,3% à la présidentielle, ce qui est quand même beaucoup mieux.
À gauche, à droite, au final, c'est de la soupe. Hein. Bon, alors, Arlette Laguiller, 6.
Présente.
6, bon bah non, bien, ça tient pas debout, c'est ni fait ni à faire, mais c'est agréable à lire. Puis ça fait tellement longtemps, hein. Vous quintuplez, je crois.
Oui, c'est vrai.
Ah, vous allez sextupler alors.
Elle devient donc conseillère municipale au Lila, sa ville en banlieue parisienne. Elle est même députée européenne à partir de 1999. Et en 2002, rebelote, elle fait 5,7% à la présidentielle. Elle est alors l'une des rares candidates à ne pas appeler à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen au second tour, ce qui va entraîner un peu la fin de sa hype. Ensuite, elle va perdre tous ses mandats, tomber à 1,3% à la présidentielle de 2007 et Alain Souchon refuse désormais de chanter sa chanson, ce qui est sans doute un signe des temps. Mais Arlette Laguiller ne l'aimait pas trop, d'ailleurs elle l'a dit à l'été 2021 sur France Inter dans Femmes Puissantes.
Cécile Sourd, dans son étude « Femmes ou politique » sur les candidates vues par la presse régionale en 2002, revient sur le traitement médiatique de la candidate trotskiste. Je cite « Arlette Laguiller soit régulièrement, bien qu'implicitement, reprocher le fait de ne jamais avoir été mère, ainsi que celui de ne livrer aucun détail de sa vie sentimentale. Aussi, l'un des articles commence-t-il dès le chapeau avec les mots « Portrait d'une célibataire dont la foi en la Révolution a démodé le Parti communiste ». Insérer le célibat d'Arlette Laguiller dès le chapeau prouve à quel point, d'une part, le sujet est vu comme susceptible d'intéresser les gens, et d'autre part, il constitue un fait marquant car profondément déviant par rapport à la norme. Un article intitulé « Qui vote Arlette ?» débute en outre ainsi « J'aime un homme, mais je le cache », confiait Arlette Laguiller à Gala.
Incroyable, Arlette Laguiller dans Gala. Qui l'eût cru ? En tout cas, effectivement, il y a une grande attention journalistique qui est portée à sa vie sentimentale. Mais puisqu'elle n'est pas mariée et qu'il s'agit d'une femme, le champ lexical qui est utilisé va être celui de la religion. On va lire qu'il s'agit d'une sainte mère laïque, d'une sainte Arlette, d'une vierge rouge, voire d'une grande prêtresse du trotskisme, etc. Et donc, la sociologue conclut qu'Arlette Laguiller, n'ayant pas été mère dans la sphère sphère privée, elle le sera donc à travers sa lutte politique dans la sphère publique. On l'écoute.
J'avais l'envie de représenter à la fois le monde du travail et à la fois les revendications des femmes dans une période où, quelques années après 1968 et la grève générale, on était quand même en pleine ébullition, nous les femmes, pour gagner le droit à l'avortement et à la contraception.
Finalement, accéder au pouvoir, vous auriez été prête ?
Non, parce que, vous savez, comme je l'ai dit des milliers de fois, si j'avais été élue présidente de la République, je pense qu'il y aurait la révolution en France, c'est évident.
Oui, et puis tout ce champ lexical de la religion, il va être utilisé pour notre deuxième exemple aussi. En 2007, Ségolène Royal est la première femme engagée dans la compétition pour un parti susceptible de l'emporter, en l'occurrence le Parti Socialiste, à l'époque il était susceptible de remporter une élection. Cette année-là d'ailleurs, un tiers des candidates sont des femmes. Ségolène Royal est entrée en politique environ 25 ans plus tôt en devenant chargée de mission à l'Élysée après l'élection de François Mitterrand. Elle entre vraiment dans le grand bain en 1988 quand elle devient candidate aux élections législatives pour le PS. Dans une scène fascinante lors de la cérémonie d'investiture de François Mitterrand, Ségolène Royal lui réclame une circonscription où se présenter. À moins d'un mois du scrutin, le président réélu lui dit que c'est trop tard, que les investitures sont déjà distribuées. Elle insiste, elle est finalement parachutée dans le sud des Deux-Sèvres. Pas vraiment un cadeau hein, pour une inconnue qui plus est socialiste. À la surprise générale, Ségolène Royal gagne contre un candidat de droite pourtant très implanté.
Et en 1992, elle devient ministre de l'Environnement alors qu'elle est enceinte. Elle fait sensation en médiatisant la naissance de sa dernière fille, quelque chose qui était totalement exotique à l'époque. Plus tard, en pleine débâcle de la gauche aux législatives, elle va être la seule députée socialiste mieux réélue que la fois précédente. Après 1997, elle est de nouveau ministre dans le gouvernement Jospin, mais c'est vraiment à partir de 2004 qu'elle va changer de dimension. Cette année-là, elle fait largement basculer à gauche la région Poitou-Charentes, qui est la région du Premier ministre de l'époque, je vous le donne en mille, Jean-Pierre Raffarin. Et donc, elle va devenir le symbole de la vague rose des régionales de cette année-là, où toutes les régions basculent à gauche, sauf l'Alsace. Donc Ségolène Royal devient une personnalité nationale de premier plan, et aussi une présidentiable, et c'est là que ça nous intéresse. Dès 2005, le Nouvel Observateur va faire sa fameuse une, et si c'était elle, en vue de la présidentielle de 2007. Donc à partir de là, son ascension est assez irrésistible, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir avec le recul, puisqu'elle va largement remporter l'investiture socialiste, mais ça va aussi marquer le début d'une grande foire au sexisme.
Oui, c'est un moment assez décisif pour la visibilité des questions de genre en politique et la manière dont elles ont été mises en scène à cette occasion. Ségolène Royal n'a pas autant de capitaux partisans que ses prédécesseurs. Elle n'a jamais exercé de fonction à la tête du PS, par exemple. Elle va aussi payer le fait d'être la compagne d'eux, en l'occurrence la compagne du premier secrétaire du PS de l'époque, François Hollande. Quand elle devient une candidate crédible, Laurent Fabius déclare « Mais qui va garder les enfants ?» Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, dit que l'élection présidentielle n'est pas un concours de beauté. Et ça n'est qu'un extrait de nombreuses...
Pardon.
Ça n'est qu'un extrait de nombreuses saillies du genre à l'époque. Une fois candidate, le moins qu'on puisse dire, c'est que Ségolène Royal ne va pas être beaucoup soutenue par son parti dans un mélange de sexisme et de ressentiment. Bien des éléphants du PS, comme on disait à l'époque pour parler des principaux leaders qui se préparaient depuis des années et des années à être candidat, voire président, n'ont pas du tout supporté de se faire passer devant, et même un peu humilié, faut bien le dire, par une femme. Quelques faux pas de la candidate, comme quand elle s'est fait prendre dans un canular du comique Gérald Dahan, où il s'était fait passer pour le premier ministre québécois, où sa fameuse petite phrase, vous savez, sur la bravitude, vont lui rendre la campagne impossible. Elle va passer pour une idiote, une folle, une incompétente. Ce sera pareil dans la suite de sa carrière. Les faits et gestes de Ségolène Royal seront surmédiatisés, le plus souvent tournés en dérision et moqués. On peut pas dire qu'elle a pas parfois donné un peu le bâton pour se faire battre, certes, mais je crois que le monde politique et les médias lui ont jamais rien passé.
Oui, parce que je me suis aussi imposé à moi-même la loi du silence. C'est-à-dire que si j'avais raconté,
vous avez encaissé,
plutôt,
sans
j'ai
rien
encaissé.
Dire.
En disant, si jamais je me plains, on va dire, bah, voyez, elle se plaint, les femmes sont pas solides, voyez, elle manque d'humour, oh, bah, non, mais c'était pour rigoler qu'on disait ça, voilà.
Oui, alors, on peut renvoyer ici aux écrits du sociologue Éric Fassin, qui a été un fin observateur de la présidentielle de 2007. Pour rappeler un peu le contexte, on est donc après la loi sur la parité, et la place des femmes en politique n'est pas pour autant acquise, ou alors, on les somme de se différencier. Et donc, Éric Fassin explique dans une interview à Libération qu'avec Ségolène Royal, on voit se refermer le piège de la politique des sexes à l'heure de la parité. C'est parce qu'elles n'étaient pas censées être des hommes politiques comme les autres que les femmes se sont vues reconnaître une place. Il ne s'agit pas tant de différence féminine que de proximité citoyenne, être femme, ce serait être proche des gens, donc éloignée du microcosme politique. Au moment même où la parité vise à promouvoir les femmes, la féminité se trouve ainsi redéfinie comme le supplément d'âme de la politique, son envers. L'historienne américaine Joan Scott l'a montré, et les enquêtes sur la parité le confirment, c'est sur la crise de la représentation qu'est fondée la présence des femmes qui ont vocation à représenter la société civile dont l'absence hante la politique. C'est bien sur cette image qu'a surfé Ségolène Royal, en se targuant de n'avoir pas réponse à tout, d'être moins professionnelle que Dominique Strauss-Kahn ou Laurent Fabius, elle prétendait se montrer plus proche des citoyens.
Catherine Achin et Elsa Dorlin, qui avaient aussi analysé cette campagne donc dans Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du président, expliquaient que la candidature de Ségolène Royal et la mise en scène de son identité sexuelle ont contraint ses adversaires à se positionner en termes de genre, mais aussi de sexualité. Dans le contexte de la pré-campagne à l'élection présidentielle de 2007, Royal a ainsi réussi à inventer ce que l'on pourrait appeler une féminité gouvernante. Elle a pu faire preuve d'une féminité revendicatrice, assumée, voire sexy, sans être en contradiction avec le pouvoir politique. Plus Sarkozy s'enfermait dans sa virilité, plus Royal devenait un véritable homme politique. Pour autant, dès son investiture, Royal a oscillé entre la parfaite incarnation de ce nouveau corps politique et sa rechute vers une féminité stigmatisante. D'un côté, elle parvenait à incarner et construire ce changement qu'elle théorisait, usant de son sexe en se revendiquant une femme debout. De l'autre, elle vacillait face à l'entreprise d'intimidation du sexisme ordinaire et s'enfermait dans un féminisme maternel très victimaire. Effet d'un positionnement politique flottant, critiqué au sein même de son parti et de son électorat, et d'un cadrage médiatique défavorable, la chute de Royal est aussi la conséquence d'un changement tactique majeur de la part du candidat Nicolas Sarkozy. En janvier 2007, lors de son investiture officielle, Sarkozy dit qu'il a changé, il est devenu plus ambivalent, plus profond, plus sensible, il s'est dévirilisé. Par ce réajustement tactique, Sarkozy a renvoyé Royal à sa féminité et lui a fermé l'espace interstitiel dans lequel elle avait réussi à bricoler une identité inédite d'homme d'État. Le 8 mars 2007, lors d'une émission télévisée, alors qu'Arlette Chabot montrait au candidat Sarkozy les images d'archives d'une émission royale sans se démonter, rappelait à l'ordre l'agressif jeune Sarkozy, ce dernier a commenté les images en rappelant que lui a changé, sous-entendant qu'aujourd'hui les choses ne pourraient plus se passer comme cela, car elles n'auraient plus de prise. On y reviendra plus tard dans le fameux « Je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère » de Ségolène Royal lors du débat de l'entre-deux-tours. Impuissante face à un processus ultra-classique de pathologisation du conflit, d'hystérisation de sa colère, Ségolène Royal fait les frais d'une rhétorique sexiste éculée.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. De mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère.
Est-ce que je peux répondre ?
Vous permettez, il y a des colères très saines et très utiles.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Et
je ne m'énerve pas. Je suis en colère.
Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervée alors ?
Je ne suis jamais énervée. J'ai beaucoup de sang-froid.
Ah bon, très bien. Ben écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est
pas
de chance.
Non, justement pas. Je suis en colère face aux injustices,
Madame Royal,
et face aux mensonges.
La conclusion, c'est donc que cette campagne présidentielle de 2007 n'est pas parvenue à rendre illicite le sexisme en politique. Plus encore, soulignent les deux autrices, le sexisme de la campagne a fonctionné comme un opérateur de neutralisation des dénonciations même du sexisme. C'est-à-dire que Ségolène Royal ou d'autres ont bien tenté de prévenir, d'enrayer ou de dénoncer parfois maladroitement le dispositif sexiste plus ou moins à l'œuvre de part et d'autre de l'échiquier politique, la figure ou la personnalité royale a tout de même fini par cristalliser une certaine violence perverse, celle exercée sur une victime à qui l'on reproche d'user et d'abuser de sa position minoritaire. C'est là le signe de la prégnance d'un rapport de pouvoir, en l'occurrence de la domination de genre, qui redouble son efficacité dans et par le fait de délégitimer tout ce qui pourrait en miner l'ancrage. Voilà donc le processus assez insidieux qui a eu cours durant cette campagne, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après 2007.
Revenons alors un peu avant pour notre troisième exemple. L'écologiste Dominique Voynet a été deux fois candidate à l'élection présidentielle au nom des Verts. En 1995, elle obtient 3,3% des voix et en 2007, 1,6%. Elle est l'une des personnalités fondamentales dans l'histoire de l'écologie politique en France. Après avoir fait ses armes dans les mouvements antinucléaires, Dominique Voynet fait partie des cofondateurs et cofondatrices du parti Les Verts en 1984. Elle est l'une des principales dirigeantes du parti. On l'a un peu oublié, mais le début des années 1990 sont des années de grand succès pour les partis écologistes français, à tel point qu'en vue des élections législatives de 1993, certains sondages évoquent la possibilité que les écologistes dépasse le PS au premier tour, déjà à l'époque. C'est finalement pas le cas, et Dominique Voynet est l'une des rares vertes à être qualifiée au second tour dans le Jura, à Dole, où elle est implantée à ce moment-là. Les Verts payent en fait la stratégie du ni-ni, c'est-à-dire ni droite ni gauche. Et c'est notamment Dominique Voynet qui va faire changer la ligne du parti en adoptant une stratégie d'alliance exclusive à gauche qui perdure finalement toujours aujourd'hui. C'est ce qui va mener à la création de la gauche plurielle avant les élections législatives de 1997. Verts et PS signent un accord qui permet l'élection de 7 députés écologistes à l'Assemblée nationale, c'est une première. Dominique Voynet elle-même est élue, mais ne reste pas longtemps au Parlement, car elle devient la première écologiste à rentrer dans un gouvernement en France. Le 4 juin 1997, elle est nommée ministre de l'Aménagement, du Territoire et de l'Environnement dans le gouvernement Jospin.
Avant la passation de pouvoir au ministère de l'Aménagement du Territoire, Dominique Voynet a assisté à son premier conseil des ministres. Impression.
C'est vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça tellement souvent à la télé que j'avais pas de surprise.
C'est mieux qu'à la télé ?
C'est comme à la télé.
La nouvelle ministre obtient alors quelques avancées, notamment la fin de la centrale nucléaire Superphénix dans l'Isère, et elle va aussi introduire un jour sans chasse par semaine. Ça ne va pas durer. Et donc avec les chasseurs et les agriculteurs, ça va très mal se passer. Dominique Voynet va être régulièrement prise à partie, voire carrément agressée. Et l'événement le plus marquant, sans doute, c'est le saccage du bureau de la ministre par des syndicalistes agricoles en 99, à savoir que 2 ans plus tard, seules 3 personnes seront condamnées à des peines symboliques pour ce saccage. Les critiques politiques contre Dominique Voynet sont donc souvent matinées de sexisme, on ne s'en étonne pas, encore une fois.
Pour certains agriculteurs, ceux qui avaient la voix la plus forte cet après-midi, Dominique Voynet aurait dû comprendre que le saccage de son bureau n'était qu'un avertissement. Pour ces agriculteurs-là, le ministre de l'Environnement était indésirable, porte de Versailles.
Bonjour quand même. J'espérais voir des animaux quand même.
Vous êtes en bois ?
Elle est gonflée de venir au salon, croyez-moi.
Et pourquoi elle est gonflée ?
Parce que la merde les paysans, la merde le monde.
Donc l'écolo va devenir une sorte de cible, à tel point qu'elle quitte le gouvernement dès 2001, une année où elle perd largement les municipales à Dole. En 2002, elle n'est pas non plus réélue députée, elle quitte alors le Jura pour la Seine-Saint-Denis, où elle est élue sénatrice en 2004, puis maire de Montreuil en 2008. Elle devient donc la première maire verte d'une ville de plus de 100 000 habitants et habitantes, et ça ne va pas non plus très bien se passer à Montreuil, à tel point qu'elle ne se représente pas en 2014, et c'est alors la fin de sa carrière politique. Elle revient donc dans le secteur de la santé, puisqu'elle était médecin anesthésiste de formation, et elle est aujourd'hui directrice de l'Agence régionale de santé de Mayotte.
Venons-en à celles qui sont à nouveau candidat cette année, en tout cas pour l'instant. Christiane Taubira est la première femme noire issue des Outre-mer à être candidate à l'Élysée, c'était en 2002. Elle est née dans une fratrie de 11 enfants, élevée par une mère aide-soignante en Guyane. Christiane Taubira fait ses études en métropole et à Paris. Au regard de sa position sociale de dominer, son accession à des métiers politiques contrarie la logique du recrutement de ce milieu. La politiste Stéphanie Guyon explique qu'elle a les mêmes caractéristiques qu'une génération d'élite antillaise d'après-guerre, après que la Guyane soit devenue un département. Il s'agit des fractions ascendantes des classes moyennes et populaires créoles venant concurrencer les anciennes élites coloniales issues des grandes familles antillaises ou guyanaises. C'est une génération plus politisée. Christiane Taubira a d'ailleurs milité pour l'autonomie de la Guyane au sein de l'Union des étudiants guyanais. En 1993, elle est élue députée de Guyane au nom d'un parti local et vote la confiance au gouvernement de droite d'Edouard Balladur. Voilà, un vote qui lui est à nouveau reproché aujourd'hui, mais elle se défend en expliquant qu'elle a voté conformément à une décision d'une assemblée de son parti. Au cours des années 90, elle se rapproche clairement de la gauche, notamment dans le sillage de Bernard Tapie, lors des élections européennes de 1994. Sa première loi Taubira, une loi sur l'esclavage, la met sur les radars en 2001.
Il me fallait à la fois dompter mon cœur et mes larmes, être à la hauteur à cette dernière étape, parce que ça n'est pas une démarche personnelle. J'ai essayé avec dignité, avec force, avec loyauté surtout, de porter une demande, une aspiration collective.
Et puis c'est surtout sa candidature à la présidentielle au nom du Parti radical de gauche en 2002, où elle obtient 2,32% des voix. Elle est d'ailleurs accusée à ce moment-là par certains et certaines d'avoir fait perdre Lionel Jospin, le candidat socialiste éliminé dès le premier tour cette année-là. Christiane Taubira navigue ensuite. Elle vote non au référendum sur la Constitution européenne en 2005, soutien royal en 2007, puis Europe Écologie Les Verts en 2009, monte bourg à la primaire socialiste de 2011, et enfin se rallie à François Hollande, une fois le candidat investie.
Oui, à ce moment-là, elle va devenir ministre de la Justice après son élection, on s'en souvient. Et d'ailleurs, c'est à ce poste-là qu'elle va batailler pour la loi pour le mariage pour tous en 2013. Et on se souvient de ses tribunes lyriques à cette époque. Et donc, elle va devenir aussi la cible de toutes les flèches conservatrices et carrément racistes. On va même lui dire, je cite, de retourner manger ses bananes. Et finalement, elle quitte le gouvernement en 2016 face à la volonté de Manuel Valls de faire passer la déchéance de nationalité pour les terroristes. Et donc c'est depuis cette date qu'elle apparaît toujours un peu comme un recours, peut-être de dernière minute, pour une gauche en mal d'incarnation. Elle avait d'ailleurs décliné en 2017, mais cette fois-ci, elle tente sa chance, donc portée par l'investiture de la primaire populaire. Mais voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Stay tuned.
En tout cas, la politologue Frédérique Matonti, dans son ouvrage Le genre présidentiel, parle de cette candidature de Christiane Taubira et elle note que l'intrication de stéréotypes racialisés et genrés est très présente dans les portraits qui sont faits de Christiane Taubira. Celle-ci serait, je cite, en feu, mais aussi paresseuse, ce qui est un stéréotype raciste contre les personnes d'origine antillaise. Ces stéréotypes ardeur et indolence paraissent contradictoires, mais sont en fait parfaitement en accord avec les représentations des femmes noires qui se sont développées à partir de la colonisation des Caraïbes et de la traite des esclaves. Et last but not least, vraiment, on a gardé le meilleur pour la fin, Rachel.
Compliqué de parler des femmes candidates à l'élection présidentielle sans parler de Marine Le Pen, déjà deux fois sur la ligne de départ et une fois au second tour en 2017. C'est elle qui, en 2011, a repris la petite entreprise familiale d'extrême droite fondée par son père, Jean-Marie Le Pen, en 1972. Il faut rappeler que le Front National, ancien nom du Rassemblement National, est directement issus des mouvements d'extrême droite et néofascistes Occident et Ordre Nouveau dans les années 60, c'est toujours bon de le faire alors que le parti n'a de cesse de tenter de lisser son image. Marine Le Pen est avocate et travaille de longue date pour le parti de son père. Elle se présente à diverses élections dans les années 1990 et devient conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais en 1998. Mais c'est en 2002 qu'elle émerge médiatiquement. Vous le savez, cette année-là, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle et le Front National manque de porte-parole pour aller sur les plateaux de télé et de radio. Marine Le Pen découvre alors le feu des projecteurs. On dit aussi qu'elle occupe beaucoup de place dans la com de son père pour le second tour de la présidentielle.
Quel bonheur. Hein, quelle émotion. C'est fou.
Oui, ça, faut dire que
c'est fou.
Je disais, avec les accouchements, ça doit être le plus beau jour de notre vie, je crois. C'est un peu similaire, quoi. C'est la naissance de quelque chose.
Peu à peu, elle gravit les échelons du parti, devient députée européenne en 2004, et donc en 2011, prend la tête du principal parti d'extrême droite français. Après avoir pas mal hésité entre Île-de-France et Pas-de-Calais, c'est finalement sur ce dernier secteur que se porte son dévolu électoral. Elle échoue plusieurs fois à devenir députée d'Hénin-Beaumont ou à faire élire une mairie frontiste dans cette ville. La commune bascule finalement en 2014, et Marine Le Pen devient députée en 2017.
Il s'en passe des choses à Hénin-Beaumont. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que son traitement médiatique est assez paradoxal et qu'il est aussi révélateur de pas mal d'ambiguïtés. Cécile Sourd, toujours dans sa revue de presse, note que le corpus d'articles qu'elle a pu étudier révèle de nombreuses références à la chevelure de Marine Le Pen, tandis qu'aucune mention n'est faite des boucles de Jean-Louis Borloo ou de la calvitie de Bruno Maigret. Et c'est d'ailleurs bien dommage. En tout cas, cela ne va pas empêcher, par ailleurs, la presse de viriliser Marine Le Pen. Et ça, c'est Frédéric Matonti qui le note lorsque l'on parle d'une femme de poigne. Évidemment, il y a aussi le rapport au père et le rapport hiérarchique. Là encore, nombre de portraits de candidates mentionnent une influence masculine, donc Marine Le Pen n'est pas la seule. En effet, ce seraient des ascendants familiaux qui auraient poussé les candidates à se lancer en politique. A l'inverse, aucun des hommes politiques du corpus étudié n'est présenté comme étant le protégé de tel ou tel autre acteur du champ, ce qui est révélateur des schémas de pensée à l'œuvre lorsqu'il s'agit du politique. C'est une manière révélatrice de la force avec laquelle s'impose ce raccourci lorsqu'on parle des femmes en politique. Ça, c'est Frédéric Matonti qui le confirme dans son ouvrage. Usage du prénom, insistance sur le statut filial, réduction d'une fonction politique à une fonction d'inspiration réservée aux femmes, quand on parle d'égérie, la description est donc bien conforme à celle des autres femmes politique. Et donc, il va s'agir là d'une identité très stratégique qui est co-construite par Marine Le Pen et également reprise dans les médias dans le cadre de sa vaste entreprise qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de dédiabolisation, qui est encore en cours. On écoute l'historienne Mathilde Larrère, autrice de Rage Against the Machism et co-autrice de Des intrus en politique, femmes et minorités.
Alors, est-ce que l'élection présidentielle est finalement une élection profitable pour les femmes ? Où y a-t-il plus d'obstacles que d'ouvertures ? À la base, ça commence pas bien, hein, soyons clairs. La fonction présidentielle, et plus encore depuis qu'elle est élue, c'est-à-dire depuis 62-64, c'est une fonction qui a un genre et qui a un genre extrêmement masculin. Et de fait, il y a plusieurs raisons à ça. Un héritage monarchique qui est présent dans cette figure du président de la République. Or, le roi en France, loi Salique oblige, est un homme. Et ça se traduit dans la figure présidentielle française. Ajoutez à ça que le premier président de la République élu, c'est le général de Gaulle, donc figure masculine, carte de légitimité malgré tout militaire. Hein. Ce qui fait que cette fonction, elle est assez nécessairement associée au genre masculin, ce qui, a priori, dessert les femmes. Ce d'autant qu'il y a l'image du chef des armées, chef de l'État, et on est plus dans les imaginaires et les représentations masculines. Et pourtant, peut-être une chance pour les femmes, parce que on est quand même dans un contexte qui est plutôt favorable à la reconnaissance de la place des femmes dans la vie politique. Alors certes, il y a des effets de backlash, mais en même temps, il est de plus en plus admis qu'il n'y a pas de raison que les présidents ne soient que des hommes, qu'il faut que les femmes aient plus de place, que peut-être que ce serait quelque chose de profitable, même si le type de discours qui justifie cette entrée des femmes en politique tend souvent à les essentialiser. Hein. Les femmes seraient plus douces, les femmes seraient moins martiales. Bon, voilà, c'est pas au nom de l'égalité, mais au nom de la complémentarité, de la différence qu'on défend entrée des femmes en politique, ce qui n'est pas bon en fait hein, pour le féminisme. Mais voilà, l'ère du temps est quand même à cette reconnaissance. Et donc, on peut dans ce contexte espérer que pour une candidate, le fait d'être une femme soit un atout et que ça devienne une ressource au bout du compte hein, justement pour se distinguer un peu de la masculinisation de la vie politique et de la fonction présidentielle. Ce qui fait que finalement, c'est difficile de répondre. A priori, non. Et le poids des traditions, des habitudes, des imaginaires, des stéréotypes ne va pas dans le sens de favoriser les femmes pour l'élection présidentielle, mais le contexte plus immédiat, le temps particulier, ce moment post-MeToo peut finalement ne pas totalement les desservir et pourrait même être utilisé. C'est un peu difficile pour moi de parler d'une candidate, hein, surtout dans un temps court, hein, parce que, quoi qu'il arrive, ce qui l'emporte quand même dans mon choix et dans mon appréciation de la candidate, c'est pas d'abord le fait qu'elle soit femme, c'est les idées qu'elle porte. Hein, c'est bien tout le problème. Lors des dernières élections, ouais, il y avait une femme au deuxième tour, hein, mais c'était Marine Le Pen, et toute femme qu'elle était, elle était d'extrême droite, et dans ce cas-là, le fait qu'elle ne soit femme ne peut pas jouer, évidemment, sa faveur. Ce que je trouve surtout intéressant, c'est d'essayer de voir comment les différentes candidates, pour des raisons différentes, et d'ailleurs, Marine Le Pen n'a pas toujours performé son genre de la même façon, selon les élections, mais comment, justement, elles jouent de leur féminité comme ressource ou pas. Il est évident que Ségolène Royal en jouait, mais c'était un imaginaire féminin quand même assez proche de la mère, assez proche d'une image assez traditionnelle de la femme, si l'on peut dire. Quand d'autres vont essayer de se dégenrer, hein, pendant longtemps, Marine Le Pen était plus dans une stratégie de masculinité où elle se dégenrait et n'insistait pas du tout sur son côté féminin. Elle a changé parce qu'elle s'est rendue compte que le Front National n'avait pas beaucoup de voix dans l'électorat féminin, qu'il y avait un gender gap hein, dans l'électorat du Front National, et elle a essayé d'aller chercher le vote des femmes en se féminisant. On a beaucoup glosé, les chercheurs qui travaillent là-dessus et les chercheuses qui travaillent là-dessus ont beaucoup glosé sur son affiche de campagne qui, pour la première fois, l'a présentée non seulement en jupe, mais avec le genou légèrement découvert. Donc, une présentation, finalement, qui correspond plus à des canons de féminité qu'elle n'avait pu le faire. Ça va être intéressant de, pour l'instant c'est difficile hein, de dire, mais de voir comment Pécresse va jouer de sa féminité. Elle a déjà eu des stratégies, hein. Elle a repris d'ailleurs quelque chose qui était assez ancien avec sa métaphore du ménage, hein, qui est pas super parce que ça renvoie là aussi la femme à ses fonctions traditionnelles, hein, domestiques, hein, quand elle dit qu'il faut une femme pour faire le ménage. Elle l'avait dit lors d'une élection précédente, il y a quelques décennies, elle l'a redit. Voilà comment Hidalgo va le faire, Taubira, c'est évidemment très intéressant à scruter. De toute façon, il faut faire la part de ce que les candidates vont... est-ce qu'elles vont se présenter comme femmes ou comme féministes, qui n'est pas du tout la même chose. Et voilà, donc je ne saurais pas trop dire, malheureusement, Il n'y a pas beaucoup de candidates femmes qui m'est particulièrement plu ces derniers temps. Je ferai comme exception, mais elle n'était pas candidate à la présidentielle. Elle était candidate à la primaire pour désigner un ou une candidate à la présidentielle. Sandrine Rousseau, ça m'allait bien. Mais ça m'allait bien d'abord parce que ses idées m'allaient bien. Et après, le fait qu'elle soit une femme féministe et finalement assez décontractée à la fois avec son genre et avec sa capacité à se distinguer des stéréotypes de genre... sans essayer de complètement se dégenrer, je trouvais ça très intéressant.
Alors, est-ce que tu as une expérience personnelle de visu avec ces candidates à la présidentielle ?
Bon, alors effectivement, nous, on n'a jamais été candidate à la présidentielle, et a priori, c'est pas pour demain. Mais je me permets de vous partager ma petite expérience de journaliste, en l'occurrence au sujet de Ségolène Royal. Moi, je suis originaire de La Rochelle, donc en Poitou-Charentes, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, après l'élection de François Hollande, elle a tenté de se faire élire députée de La Rochelle. À cette époque, j'étais stagiaire au France Bleu du coin, et j'ai pu suivre une campagne d'une folle violence contre Ségolène Royal. Alors c'est vrai qu'il y avait de quoi lui reprocher des choses. Elle était parachutée, elle avait fait une mauvaise campagne en pensant que le label vu à la télé et présidente de région allait suffire. Donc, il y avait bien sûr plein de raisons politiques légitimes de s'opposer à elle. Mais je trouve qu'elle a subi des choses qu'on n'aurait pas forcément fait subir à d'autres. On a voulu se payer une femme pour faire élire un petit apparatchik local en plus. Ce climat délétère et sexiste a atteint son sommet lors, vous vous en souvenez sans doute, du tweet de Valérie Trier-Weller, alors compagne de François Hollande, pour soutenir l'adversaire de son ex, le catfight mis en scène en direct, une véritable curée qui, il me semble, montre bien à quel point les femmes ont vraiment toujours la tâche bien plus dure que les autres.
Oui, et effectivement, vu qu'elles ne sont pas très nombreuses à avoir été élues présidentes en France, c'est vraiment, on peut le dire.
Non, c'est un chiffre qui s'approche de zéro.
Oui, c'est ça. Moi, je pense quand même aux exemples à l'étranger, à Margaret Thatcher ou à Angela Merkel, plus proches de nous, qui ont quand même marqué des tournants pour les femmes en politique. Mais on se demande si ce n'est pas une manière de compenser justement d'avoir élu ces femmes conservatrices. Je ne sais pas.
La différence, c'est qu'elles ne sont pas présidentes non plus. Quoi. Ça passe par un parti et des mécanismes un peu différents.
C'est vrai. Et n'oublions pas non plus Ellen Johnson, qui a été la première femme élue à la tête d'un pays africain. C'était le Liberia et c'était en 2005, donc il n'y a pas très longtemps. On peut aussi penser à des exemples un peu plus loin, que ce soit en Scandinavie ou en Nouvelle-Zélande, où Jacinda Ardern est première ministre depuis 2017. Donc elle vient du Parti travailliste. Elle a d'ailleurs pris un congé maternité pendant son mandat et tout s'est bien passé. Il y a également Sanna Marin, qui a 36 ans, qui est première ministre finlandaise, qui est issue d'une famille homoparentale. Elle-même va aussi très bien et elle vient du parti social-démocrate. Voilà, il y a aussi Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise et qui est une farouche indépendantiste.
Puis bon, il faut quand même citer dans ce podcast le nom d'Hillary Clinton, qui s'est frottée très durement à deux campagnes présidentielles américaines. Elle a perdu la primaire en 2008 face à Barack Obama, puis elle a perdu l'élection générale face à Donald Trump en 2016. Elle a sans doute beaucoup de choses à nous dire sur ce que c'est que le sexisme en temps de campagne électorale.
Oui, d'ailleurs, Éric Fassin, toujours lui, avait écrit un article à ce sujet qui s'appelait « Hillary Clinton est-elle une femme ?» Voilà, je vous y renvoie. Évidemment, ça va sans dire qu'il est difficile pour les femmes cis de se présenter et c'est encore plus difficile pour les femmes trans. On pense notamment au parcours de Sarah McBride, qui est une sénatrice de l'État du Delaware, qui est la première sénatrice trans et qui était aussi la première femme trans à la Maison Blanche du temps de Barack Obama. Et enfin, je me permets de vous renvoyer à un podcast de Binge Audio sur les femmes en politique intitulé « Il n'y a pas mort d'homme ». Voilà.
Le moment pop culture. Pop culture.
Alors, quant à la pop culture, les femmes qui arrivent très péniblement au pouvoir sont parfois héritières ou alors elles prennent le pouvoir de manière pas très catholique. On pense aux séries comme House of Cards.
Let's run together again. Not just as husband and wife.
You don't mean...
Yes.
I'm worried about you, Claire. You're not making any sense. You've let your ego get in the way.
I've always been your running mate. You just didn't want to see it.
As my vice president, Jesus,
do you have any idea? I've put a lot of thought into this.
You can't have thought it through, because
if
you did, you would have come up with a million reasons.
She's never run for anything. No children, nepotism, arrogance. I've run through them all.
Ou à des films comme Hunger Games. Évidemment, il y a aussi Borgen, la série danoise, diffusée sur Arte, qui mettait en scène une candidate centriste modérée et qui décrivait son accession assez fulgurante au poste de première ministre, avec plusieurs alliances, donc les socialistes, les verts, etc. On voyait également son entourage, notamment son spin doctor et son rapport aux médias, sans oublier, bien sûr, le coût que cette fonction peut avoir sur sa famille et sa vie privée, notamment son mari et ses enfants.
T'es jamais là, merde!
Ce qui m'a frappé, c'est de voir en vous une femme avec de fortes convictions. Où sont-elles passées?
Comment peux-tu te regarder dans le miroir, madame le Premier ministre?
Enfin, dans quel monde tu vis? Tu peux me dire?
Nous avons divorcé.
L'Express demande s'il n'est pas plus facile pour une femme de mal faire son boulot.
C'est un cauchemar.
C'est de la politique, ma petite Birgit.
Non, ce n'est pas de la politique, c'est de la manipulation.
Et donc, il paraît, tu me l'as dit, Rachel, que la série reviendrait cette année. Donc voilà.
Ça arrive très vite et on a très hâte.
Ouais, avec donc Birgit Nyborg, cette super candidate.
On reste en Scandinavie avec la série Occupied. En 2015, cette série imagine que dans un futur proche, la Norvège arrête toute production d'hydrocarbures et ça ne plaît pas trop à l'Union européenne qui mandate la Russie pour occuper le pays, tout simplement. La Norvège se retrouve dans une situation inextricable et au début de la saison 2, plus personne ne veut du pouvoir. Alors, tout un tas d'hommes proposent le poste de Premier ministre à une femme avec plutôt peu d'expérience.
Chers concitoyens, très chers citoyens de Norvège, les nombreuses démonstrations de force que nous ont imposées les Russes au cours de ces derniers jours sont tout à fait inacceptables. Elles constituent pour nous de graves infractions à la souveraineté nationale. Elles sont une atteinte à nos libertés. Nous avons longtemps fait en sorte de nous montrer compréhensifs en choisissant la voie de la diplomatie et du dialogue. Mais aujourd'hui, c'est terminé.
C'est vraiment une merveilleuse illustration de la falaise de verre. Quand ça va vraiment trop mal, alors les hommes ont vraiment beaucoup moins de difficultés à laisser la place à une femme. Et ça marche au gouvernement, comme dans des boîtes privées ou dans des partis, évidemment.
Oui, c'est drôle parce que c'est aussi le cas dans la série d'anticipation Y, le dernier homme, où tous les hommes sont morts et donc une femme est au pouvoir. Enfin, même plusieurs femmes.
Là, du coup, ils n'ont pas eu le choix de mettre une femme.
Bah voilà, ils étaient un peu obligés, les pauvres. Et donc, en France, en 2006, France 2 a diffusé une mini-série qui présentait l'élection de la première femme présidente de la République. Ça s'appelait L'État de Grâce. C'était un jeu de mots, puisque le personnage principal s'appelait Grâce Bélanger. Elle était jouée par Anne Consigny.
C'est bon, merci. Bonne nuit, capitaine. Ogive nucléaire et défense supranationale.
Ah, non.
Oh, tout un programme.
Sauf qu'en France, à cette époque-là, les fictions politiques étaient extrêmement rares. Donc, assez peu de monde se risquait à ce genre de projet un peu casse-gueule. Et donc, ça a été un échec. C'est vrai que la série est un peu gaguesque. Et ça n'a pas non plus empêché certaines polémiques, puisqu'on était alors en pleine montée en puissance de Ségolène Royal dans les sondages. Et donc, certains et certaines ont accusé la série de la favoriser.
6 ans plus tard, France 2 toujours retente sa chance avec Les Hommes de l'Ombre. Contrairement à ce que laisse entendre le nom de la série, c'est bien une femme, Nathalie Baye, qui est élue présidente de la République.
Pierre n'a pas été abattu par un membre d'Al-Qaïda. Deleuvre le sait, je suis formel.
Vous pourriez choisir quelqu'un d'autre que moi.
Vous êtes la seule à pouvoir battre Deleuvre. La campagne va être très courte.
La série, en tout cas sa saison 1, est bien meilleure que L'État de Grâce. Elle apparaît même assez moderne pour l'époque et pour la France, mais ça ne va pas durer. Elle va vite être ringardisée par l'émergence à l'étranger de House of Cards, diffusée l'année suivante. Et puis même en France, à partir de 2016, par Baron Noir sur Canal+, qui va complètement exploser le paysage. C'est sans doute la meilleure série politique française. Et au niveau international, je pense qu'elle peut regarder en face les prestigieux noms déjà cités.
Ils vont tous se liguer contre moi. On n'a pas le droit de se laisser faire. Pas avec les fachos qui comptent les points.
Suspension de séance, merci.
Filature, intimidation, tu te prends pour qui?
Tu sais qui c'est, elle? C'est tout ce que t'es censé combattre.
Petit spoil, dans la saison 2, une femme se fait élire présidente de la République, Amélie Dorandeux, sous les traits d'Anna Mouglalis. La particularité, je n'ose dire l'incongruité, d'avoir une femme chef de l'État en France n'est pas essentialisée. Elle mène ses coups fourrés comme les autres, peut-être avec plus de talent encore. Mais sinon, c'est plutôt peu abordé, ou alors vraiment subtilement. Un peu plus néanmoins dans la dernière saison, qui est d'ailleurs une totale masterclass, où Amélie Dorandeux révèle certaines de ses inspirations féministes. La série vaut vraiment le détour.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors cette semaine, je recommande The Gilded Age de Julian Fellowes, qui est donc le pape du mélo historique british et l'auteur de Downton Abbey. C'est aussi un spécialiste du gros plan sur des plumeaux en plein dépoussiérage et il revient cette fois-ci avec une série sur les 1% qui se passe cette fois-ci à New York dans les années 1900 et où la concurrence fait rage entre nouveaux riches et vieille aristocratie installée depuis longtemps en Nouvelle-Angleterre.
We have invited Marion to live with us. She hasn't a penny.
I cannot live within Antagnus's confines.
You must meet the right people in the right way.
Money isn't everything, Agnes.
I don't understand why they have taken me in.
I have a job and a fresh start that I need. I want to do something with my life.
For a New Yorker, anything is possible.
Gilded Age, c'est une expression de Mark Twain qui veut dire que ça brille en surface, mais que c'est bien pourri en dessous. Et on trouve dans ce décor de fanfreluche deux vieilles tantes, littéralement, donc jouées par Christine Baranski et Cynthia Nixon, qui accueillent une jeune ingénue jouée par Louisa Jacobson, encore une fille de Meryl Streep. Et il y a également Denee Benton, qui joue une jeune journaliste africaine-américaine très prometteuse. Voilà, c'est à voir sur OCS, si on n'a pas peur des froufrous. Et toi, Rachel ?
Moi, je voulais vous parler de la série britannique Vigil. Elle est diffusée sur Arte et donc dispo sur son site gratuitement.
Mrs. DCI Amy Silver. Earlier today, a crewman died on board Vigil.
How are you with confined spaces?
I'm gonna need someone who can radio me leads. I've got a good shorthand with Kirsten.
C'est une série policière qui enquête sur une mort suspecte dans un sous-marin nucléaire britannique. Alors dit comme ça, c'est pas forcément sexy, mais la série mêle aussi des éléments d'un récit d'espionnage et politique. Et déjà, ça, c'est des trucs qui me plaisent un peu plus. Mais alors, quand on me dit que les deux personnages principaux sont des femmes et qu'en plus elles sont lesbiennes, bah alors là, je cours, je vole. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages féminins forts dans cette série qui se déroule pourtant dans un univers très masculin. C'est vraiment bien. Il n'y a que 6 épisodes. Ça se dévore.
Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode, nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode court où on parlera de littérature jeunesse. Merci. Salut Rachel.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste Rachel Garaval-Carcel.
Mixage et montage Laurie Galligani. Prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.